travers.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions, ô Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Nos saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
C'est la Saint-Ignace aujourd'hui.
Ouais. Oups là, j'en mets partout, c'est pas grave. Alors, d'abord, avant que j'oublie trois remarques plutôt. D'abord, pour ceux qui m'écoutent sur Internet, donc la première messe à la nouvelle chapelle de Tanus sera bien le 15 août. Donc, pour ceux qui viennent à la messe, sur la lettre aux aimés bienfaiteurs, la dernière lettre aux aimés bienfaiteurs, j'ai donné l'adresse. Hein, c'est pas très compliqué à trouver si vous avez du mal. Vous n'avez pas trouvé sur Internet, faites-moi savoir et je vous expliquerai comment y aller. Parce que j'ai publié un petit papier pour les gens d'ici, pour qu'ils puissent aller à ce nouveau lieu de culte facilement. Donc la messe aura lieu à Tanus, la chapelle d'Anne-Marie, ici c'est l'oratoire d'Anne-Marie, là-bas sera la chapelle de l'église d'Anne-Marie, tous les dimanches et fête d'obligation à 10h. On m'a demandé si on faisait quelque chose pour réparer cette cérémonie blasphématoire, littéralement, il n'y a pas d'autre mot, d'initiation du début des Jeux Olympiques. Mais bon, il faut vraiment faire quelque chose. Donc, en fait, ce qu'on fera, c'est que c'est le 2 août, il y a beaucoup de gens qui vont prier ensemble un peu dans le monde entier pour réparer cette cérémonie, qui est vraiment sacrilège dans le sens que c'est non seulement la profanation de l'image de la scène, bien qu'ils prétendent le contraire, mais c'est surtout la vulgarisation de la laideur de tous les vices contre nature, et c'est ça qui est épouvantable. Encore deux autres remarques, deux remarques un peu intéressantes d'ailleurs, cette semaine que j'ai reçues par internet, où les gens m'ont dit, première remarque, les gens m'ont dit, monsieur l'abbé, l'encyclique est un peu compliquée, c'est vrai, l'encyclique de Saint Pédis, Pachendi est considéré comme un des textes les plus compliqués du magistère. Ça, c'est vrai, c'est pas une encyclique facile. C'est une encyclique qui demande une base philosophique pour arriver à comprendre. C'est justement ce que je fais, c'est essayer de vous l'expliquer. Ensuite, on m'a fait remarquer, une deuxième réflexion, on m'a dit, monsieur l'abbé, vous répétez beaucoup sur les mêmes choses. Je suis obligé. Je suis obligé parce que on a beau faire, la base de l'enseignement, c'est la répétition. On dit qu'il faut répéter 70 fois les mêmes choses à un enfant que ça rentre. Pour les adultes, c'est à peu près pareil. Donc, je sais qu'il faut répéter, mais plusieurs fois, on m'a fait la remarque que j'avais répété trop les mêmes choses. Et à chaque fois que je pose des questions, qu'est-ce que j'ai expliqué dimanche dernier et mercredi dernier? Ah ben, je sais pas. J'ai expliqué ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben, je sais pas, j'ai oublié. Donc, il faut constamment répéter. Alors, nous en sommes donc toujours à cette encyclique Pachendi Dominici Gregis, donc du 8 septembre 1907, la grande encyclique du modernisme. Donc, je vous lis le dernier paragraphe qu'on a étudié ensemble, qui est certainement, à mon avis, un des plus importants de toute l'encyclique. C'est l'édition que j'ai, c'est au numéro 20. Alors, je ne sais pas si ces numéros sont les mêmes pour toutes les éditions de Pachendi. Voilà ce que dit Saint Pédis. Ce qui jettera plus de jour encore sur ces doctrines des modernistes, c'est leur conduite qui est pleinement conséquente. À les entendre et à les lire, on serait tenté de croire qu'ils tombent en contradiction avec eux-mêmes, qui sont oscillants et incertains. Telle page de leur ouvrage, loin de là, tout est pesé, tout est voulu chez eux, mais à la lumière de ce principe que la foi et la science sont l'une et l'autre étrangères. Telle page de leur ouvrage pourrait être signée par un catholique, tournez la page, vous croyez lire un rationaliste. Écrivent-ils l'histoire? Nulle mention de la divinité de Jésus-Christ. Montent-ils dans la chair sacrée? Ils la proclament hautement. Historiens, ils dédaignent père et concile. Catéchistes, ils les citent avec honneur. Si vous y prenez garde, il y a pour eux deux exégèses fort distinctes, l'exégèse théologique et pastorale, l'exégèse scientifique et historique. De même, en vertu de ce principe, que la science ne relève à aucun titre de la foi, s'ils dissertent de philosophie, d'histoire et de critique, ils affichent, en mille manières, n'ayant pas horreur de marcher en cela sur les traces de Luther, leur mépris des enseignements catholiques, des saints-pères, des conciles écuméniques, du magistère ecclésiastique, réprimandés sur ce point, ils jettent les hauts cris, se plaignent amèrement qu'on viole leur liberté. Enfin, vu que la foi est subordonnée à la science, ils reprennent l'Église, ouvertement et en toute rencontre, de ce qu'elle s'obstine à ne point assujettir et accommoder les dogmes aux opinions des philosophes. Quant à eux, après avoir fait table rase de l'antique théologie, ils s'efforcent d'en introduire une autre, complaisante celle-ci aux divagations de ces mêmes philosophes. On peut prendre comme exemple de ce que dit ici Saint Pie X en 1907, ce qui se passe actuellement avec cette triste cérémonie lamentable d'ouverture des Jeux Olympiques. Quand on a fait des remarques qui ont été faites aux gens qui avaient organisé ça, ils vont dire, oh, mais c'était pas du tout notre intention de se moquer de notre Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons absolument rien contre l'Église catholique, rassurez-vous. Ils racontent n'importe quoi. Encore une fois, c'est ce que dit Saint Pie X, telle page de leur ouvrage pourrait être signée par un catholique, tournez la page, vous pourriez lire un rationaliste. Donc ça ne les gêne pas du tout de dire qu'ils ne sont pas du tout contre l'Église catholique, alors qu'en fait ils le sont. Voyez. Alors, la dernière fois, on avait expliqué un point très important, c'est que pour le moderniste, la foi et la science doivent être complètement séparées. C'est-à-dire, la foi, c'est quelque chose de purement intellectuel, qui doit être déconnecté du réel. Le réel, c'est la science. Donc, il faut déconnecter la foi de la science. La science, c'est la réalité. La foi, c'est la poésie, si vous voulez, pour un moderniste, c'est la poésie sur les choses sur notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez croire ce que vous voulez, mais nous, on suit la science. Donc, pour eux, le plus important, c'est la science. Pour nous, catholiques, c'est la foi. Il faut bien comprendre pourquoi. Encore une fois, c'est la même chose. Les gens me disent, vous répétez la même chose. Mais si je demande aux gens, même ceux qui m'écoutent sur Internet, pourquoi la foi est-elle plus importante que la science ? Ils ont du mal à me répondre. En fait, c'est que la lumière, c'est ce que j'expliquais la dernière fois, la lumière de la foi est une lumière divine. Qui étant divine, ne peut pas se tromper, évidemment. Notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu, ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Alors qu'au contraire, la lumière de la science est une lumière humaine. La lumière humaine est une lumière faillible. Donc, s'il y a une contradiction entre les résultats de la science et l'enseignement de la foi, le moderniste va dire, c'est la réalité qui prime, or la réalité c'est la science, donc on suit la science. Pour nous, catholiques, c'est le contraire. Puisque la lumière qui éclaire la théologie est une lumière divine, une lumière qui ne peut pas se tromper, il ne peut pas y avoir de contradiction entre la science et la foi. Et s'il y a une contradiction apparente entre la science et la foi, le résultat de la science et l'enseignement de la foi catholique, c'est que la science se trompe, tout simplement. J'avais donné comme exemple la dernière fois, je le redonne rapidement. Nous croyons, nous, catholiques, de toutes ces dogmes de foi, attention, parce que c'est en toutes lettres dans l'Écriture sainte, que Dieu a créé de toutes lettres, de toute pièce, pardon, le premier homme Adam, et à partir du premier homme, la première femme, à partir de la côte d'Adam, Ève. Les modernistes, les scientifiques modernes vont évidemment nier ça en poussant des cris de putois, en disant mais c'est complètement ridicule, la science dit que tout ça s'est fait tout seul à partir des origines, ça s'est fait tout doucement au cours des siècles ou des millénaires, et tout ça s'est fait par l'évolutionnisme à partir du grand boom du départ. Bon, et à partir du moment où ça va contre la foi, ça ne m'intéresse pas. Ah mais la foi dit que, mais la foi se trompe, la science dit que, si la science dit autre chose que la foi, si la science m'enseigne que notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu n'a pas créé l'homme, ça ne m'intéresse pas votre science, parce que la science se trompe, d'accord? Alors, pour eux, c'est ça qu'il faut bien comprendre, pour le moderniste, tout est uniquement affaire de sentimentalisme et de phénomène, ce qu'on appelle le phénoménologisme. C'est-à-dire, c'est le sentiment qui prime. C'est plus la foi, c'est le sentiment. Donc, je crois en Dieu parce que ça me plaît. J'accepte la doctrine de la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ présente sur l'autel avec son corps, son sang et son âme et sa divinité parce que ça me plaît, parce que ça me plaît bien, parce que quand je pense à tout ça, je pense que je reçois notre Seigneur Jésus-Christ par la Sainte Communion, ça me fait vibrer un peu le cœur, mon petit palpitant travaille un peu plus vite, alors ça me plaît bien, alors ça j'accepte. Mais sous-entendu, si mes sentiments me disent le contraire, ben à ce moment-là, je ne suis pas. Donc, je ne suis les choses de la foi que dans la mesure où elles me plaisent. Vous voyez ? Ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. C'est-à-dire que le sentiment est quelque chose qui change tout le temps. Donc, si je suis les sentiments, eh bien, à ce moment-là, je suis quelque chose de changeant. Au contraire, la foi ne change pas. Donc, la foi n'a absolument rien à voir avec le sentiment. Bon. Alors ensuite, on va continuer là où on s'est arrêté. Il y a une phrase très importante ici de Saint Pédis qui explique que, je vous lis le paragraphe que nous allons expliquer maintenant avec une phrase essentielle. Ici, vénérable frère, se présente à nous le moderniste théologien. Je rappelle que la théologie, c'est la science de Dieu. Théo en grec, c'est Dieu. Logos, c'est la parole. C'est la science de la parole de Dieu. Donc la philosophie, c'est l'étude de la sagesse, disaient les anciens, et la lumière de la philosophie est une lumière naturelle. Donc, pour étudier la philosophie, strictement parlant, il n'y a pas besoin d'avoir la foi, même si vous n'avez pas la foi, vous pouvez étudier la philosophie, c'est l'apprentissage des rouages de notre intelligence pour savoir où est le vrai. Bon. La théologie, au contraire, pour étudier la théologie, il faut la foi, parce que la lumière théologique est une lumière divine. Donc le théologien, c'est celui donc, qui étudie Dieu, sa nature. La matière est vaste et compliquée, dit Saint Pédis. Nous la condenserons en peu de mots. Ce dont il s'agit, c'est de concilier pour eux la science et la foi tout naturellement par subordination de la foi à la science. Donc le catholique subordonne la science à la foi, le moderniste subordonne la foi à la science. Pourquoi ? Parce que la science est humaine, c'est l'homme qui compte. La foi est secondaire. Parce que c'est du domaine purement intellectuel, du domaine purement sentimental. Vous aimez Dieu, très bien. Vous voulez mettre Dieu dans votre vie, très bien. Mais c'est du sentiment. Dans la pratique, cela n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est la science. La science me dit que, donc je suis la science. Et évidemment, si nous avons la foi, à partir du moment où la science m'enseigne autre chose que la foi conclut, c'est que la science se trompe. D'accord ? Donc je continue le texte de Saint Pédis. Donc il faut prendre les principes. Ce dont il s'agit, dit Saint Pédis, c'est de se concilier la science et la foi tout naturellement par subordination de la foi à la science. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire subordination de l'homme, de Dieu à l'homme, subordination du divin à l'humain, subordination de la lumière divine à une lumière humaine, parce que la lumière humaine a pris la place de la lumière divine puisque l'homme est devenu Dieu. La méthode du moderniste théologien est tout entière à prendre les principes du philosophe et à les adapter aux croyants. Et c'est à savoir les principes de l'immanence et du symbolisme. Fort simple est le procédé. Le philosophe disait le principe de la foi est immanent, le principe de la loi est immanent. Le croyant ajoutait ce principe est Dieu. Le théologien conclut Dieu est donc immanent dans l'homme, c'est l'immanence théologique. Donc, les modernistes, ça c'est un petit peu compliqué, mais s'il vient comprendre, l'immanence théologique, c'est l'immanentisme qui passe dans la théologie. Rappelez-vous les trois, c'est pareil, je sais que si je vous pose la question, par exemple, quels sont les trois faisceaux d'erreurs des modernistes ? J'ai expliqué au moins 30 fois. Qui peut répondre ? J'interroge aussi tous ceux qui m'écoutent sur Internet. L'agnosticisme. Hein ? Un sur trois, c'est déjà pas mal. L'immanentisme, oui, j'ai dit, et l'évolutionnisme. Donc il faut savoir ça. Je serais curieux de savoir, sous ceux qui m'écoutent sur Internet, qui était capable de répondre à la question sans tricher sur vos notes. Bon, donc, le modernisme, c'est un mélange. Un cerveau qui est mélangé, dans lequel il y a un mélange d'évolutionnisme, tout change, d'immanentisme, tout cela à l'intérieur, et d'agnosticisme, on n'est sûr de rien. Donc, quand le théologien moderniste conclut, Dieu est donc immanent dans l'homme, ça veut dire que Dieu vit dans l'homme et c'est l'homme qui fait vivre Dieu en lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça semble ridicule, mais c'est comme ça qu'il travaille. L'immanenti, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'homme qui fabrique Dieu à l'intérieur de son âme, à l'intérieur de son intelligence. Ça vous semble complètement idiot, mais c'est ce qu'ils enseignent. Bon. L'homme, Dieu est immanent dans l'homme, c'est-à-dire que l'homme va prendre Dieu et va se l'adapter à la taille de son intelligence, à la taille de son âme. Évidemment, on ne peut pas comprendre toujours Dieu. Donc, on se taille un Dieu à notre mesure. C'est ce qu'on appelle l'immanentisme, l'immanence théologique. L'immanence théologique, c'est ça. Et c'est extrêmement dangereux comme procédé. Conséquence de ça. Conséquence de cette immanence, exemple de cette immanence théologique, ce qu'on appelle l'immanence théologique. Il y a la théologie qui devient immanente. Il y a la théologie qui, en principe, travaille avec une lumière divine, on va la faire travailler avec une lumière humaine. C'est ça l'immanence théologique. Bon. Immanence théologique, qui dit théologie, dit lumière divine. On adapte, on prend la théologie, on la met dans l'homme, et on éclaire la théologie avec une lumière purement humaine, en disant c'est maintenant l'homme qui va décider les limites de la théologie. Donc on remplace une lumière divine par une lumière humaine. Immanence théologique. Exemple de cette immanence théologique. Toutes les hérésies actuelles sont basées sur une des grandes hérésies actuelles enseignées surtout par par Benoît XVI, mais maintenant évidemment encore plus avec Bergoglio à Rome et tous les faux papes depuis Jean XXIII, mais c'est très clair aujourd'hui. Cette immanence théologique, il la manifeste par une phrase toute simple: la grâce est naturelle à l'homme. La grâce est naturelle à l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout homme, à partir du moment où la nature humaine, il a la grâce. Or, la grâce est nécessaire au salut. Conclusion.
Tout le monde est sauvé.
Tout le monde est sauvé. Alléluia. Tout le monde va au ciel. Si tout le monde va au ciel, à quoi servent les sacrements? À rien. Évidemment. Et c'est pour ça, logiquement, avec eux-mêmes, s'ils disent que la grâce est naturelle à l'homme, le baptême, ça ne sert plus à rien. Et d'ailleurs, Bergoglio se gêne pas pour le dire. Quand il dit que tous les hommes sont enfants de Dieu, il rappelle une grande vérité de l'immanence théologique. Puisque tous les hommes sont enfants de Dieu et que les enfants de Dieu, et qu'il faut être enfant de Dieu pour aller au ciel, donc tous les hommes vont au ciel parce qu'ils sont tous enfants de Dieu, eh bien c'est une immanence théologique qui s'oppose évidemment à toute la foi catholique. Donc, puisque l'homme, tous les hommes sont enfants de Dieu, donc tous les hommes, puisque c'est le baptême qui fait de nous des enfants de Dieu, le baptême devient une chose complètement surannée, qui sert à rien, puisque l'homme est déjà enfant de Dieu, à quoi ça sert le baptême? À rien. Et puisque la grâce est naturelle à l'homme, puisqu'elle est naturelle à l'homme, eh bien, elle ne peut pas disparaître dans notre nature. Donc, on ne peut pas supprimer la grâce. Or, comment la grâce saute-t-elle dans notre âme? La grâce saute dans notre âme par le péché. Or, la grâce est naturelle à l'homme, disent-ils. Donc, l'homme ne peut pas pécher, puisqu'il ne peut pas faire la grâce. Donc, il n'y a plus de péché. S'il n'y a plus de péché, plus besoin de confession. Alors, on est tous enfants de Dieu, plus besoin du baptême. On est tous en état de grâce constamment, plus besoin de la confession. Et puisque notre Seigneur, puisque tous les hommes vont au ciel parce qu'ils ont tous la grâce naturellement en eux, quoi ça sert la messe? Plus à rien. Donc la messe qui est renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire offert par Dieu le vendredi saint, renouvelé sur l'autel de manière non sanglante, de façon propitiatoire, ça sert strictement plus à rien, puisque de toute façon tout le monde va au ciel. Donc on supprime le baptême, on supprime la confession, on supprime la Sainte Eucharistie, le mariage, il n'y a plus de péché. Donc pourquoi imposer des limites aux gens en disant vous n'imposerez qu'une seule femme, œuvre de chair et désira, comme mariage seulement? Vous pouvez faire quand même tête puisqu'il n'y a plus de péché. Donc le mariage, ça ne sert plus à rien. Et hop, on introduit dizaines de milliers d'annulations de mariage pour supprimer le mariage. Il ne reste plus rien. Et c'est ça qu'il faut comprendre. L'immanence théologique entraîne la destruction totale de la foi catholique. Et c'est ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe actuellement, les gens perdent la foi par dizaines de millions. Et c'est logique, c'est pour ça qu'ils ont commencé à avoir d'énormes problèmes maintenant, par exemple en Europe, surtout en Allemagne, en Hollande, et même en France de plus en plus, où les conférences épiscopales reconnaissent qu'ils sont en train de perdre des catholiques par dizaines de milliers tous les ans, voire même centaines de milliers tous les ans. Il y a tous les ans et plusieurs centaines de milliers de catholiques qui apostasient de la foi catholique. Pourquoi? Immanence théologique. Pourquoi voulez-vous m'imposer un catéchisme avec des dogmes préétablis, avec des dogmes expliqués, alors que je peux faire ma propre vérité à l'intérieur de moi-même par immanence? Voilà, donc c'est du protestantisme pur et simple. C'est pour cela que ce dont les gens modernes ont le plus besoin aujourd'hui, c'est de quoi? C'est le catéchisme. Et ça rejoint ce que Mgr Lefebvre nous expliquait souvent en séminaire. Ce qu'il faut le plus faire, c'est affirmer les grandes vérités de la foi catholique. Cherchez pas trop à les expliquer, mais de toute façon, la plupart d'entre elles sont quand même des choses très mystérieuses. Les mystères de la foi, on ne peut pas les comprendre ici-bas. Il faut affirmer la vérité catholique. Il y a un Dieu en trois personnes égales et distinctes. Le baptême est nécessaire au salut parce que le baptême fait de nous des enfants de Dieu. Le mariage est indissoluble. Donc, seule la mort peut détruire le sacrement de mariage. Bon, et puis, et tout comme ça, on affirme la foi catholique. L'affirmation de la foi catholique pour un théologien moderniste est insupportable. Pourquoi? Parce que pour eux, tout est fait à l'intérieur. Si quelqu'un vient me voir, dit voilà, monsieur l'abbé, je voudrais connaître la foi catholique. Qu'est-ce que je vais lui donner comme livre? La Sainte Bible? Non. C'est beaucoup trop compliqué. Je lui donne quoi? Un catéchisme. J'ai encore acheté 20 catéchismes de Saint-Pilice, c'est dans mon bureau. Je donne immédiatement à cette personne le catéchisme de Saint-Pilice, une centaine de pages. Voilà l'enseignement de la foi catholique. Vous lisez ça tranquillement, vous allez avoir des questions, des choses que vous prenez mal, vous notez, les parties que vous avez mal compris, je vous les expliquerai quand vous revenez me voir. Et voilà l'enseignement de la foi catholique. C'est clair, net, sans bavure. Bon. Est-ce que un moderniste, un théologien immanentiste, qui suit l'immanence théologique, est-ce qu'un moderniste va accepter de lire un catéchisme? Même pas. Il va refuser clair et net de lire un catéchisme, parce que pour lui, un catéchisme impose une vérité qui vient de l'extérieur, qui vient de Dieu. C'est Dieu qui impose sa façon de voir aux hommes. Or, selon le théologien moderniste, c'est l'homme qui impose à Dieu sa façon de voir. C'est plus nous qui obéissons à Dieu, c'est Dieu qui doit obéir à l'homme. J'ai décidé que le baptême, ça ne me plaît pas. Votre enseignement sur le baptême, ça ne me plaît pas beaucoup, parce que vous prétendez qu'il faut que le baptême est nécessaire au salut. Ça ne me plaît pas. Mon petit cœur ne marche pas dans votre combine, donc je n'accepte pas ça. Par contre, tel autre dogme de foi me plaît. Oui, ça je veux bien, j'accepte. Ça me plaît bien. Le sentiment me dit que je peux accepter ça, alors j'accepte. C'est pour ça que ce dont les gens ont le plus besoin aujourd'hui, c'est du catéchisme. Donc ceux qui m'écoutent sur Internet, beaucoup me disent, monsieur l'abbé, on a un peu de mal parfois parce qu'on n'a pas toujours la compréhension de tous les termes. Étudiez votre catéchisme. Donc procurez-vous le catéchisme de Saint-Pélis, il était entre autres aux éditions Saint-Rémy, un Cadillac, près de Bordeaux, donc il se aux éditions Saint-Rémy, vous pouvez le commander là. Commandez le catéchisme de Saint-Pélice et étudiez votre catéchisme. Commencez par ça. J'ai mis sur le site un cours de catéchisme complet, je ne sais plus combien il y a de cours, je crois qu'il y a 117 cours. Étudiez ces cours, c'est des cours d'une heure et demie, monsieur l'abbé, c'est long. Ben évidemment, on ne va pas étudier la base même de toute la foi catholique comme ça en 5 minutes. Vous étudiez pour apprendre. Il faut absolument vous sortir de la tête, du cœur, que la foi a quelque chose à voir avec les sentiments. La foi n'a rien à voir avec les sentiments. La foi, c'est l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui, étant Dieu, nous enseigne ses grandes vérités. Et étant Dieu, il peut ne se tromper, ni le tromper. Donc, je dois me soumettre à l'enseignement divin. Rappelez-vous, la base philosophique de ça, je jure que si je vous demande quelle est la base philosophique de ça, quelle est la base qui permet aux modernistes d'ignorer complètement ces grandes vérités et de se faire leur propre vérité. Je suis sûr que si je vous demande, vous allez me regarder avec des yeux ronds, parce qu'encore une fois, vous avez complètement oublié. Et je suis sûr que ceux qui m'écoutent sur Internet, c'est pareil. Ça s'appelle le subjectivisme. C'est ça le subjectivisme. Je fais ma vérité. Plus exactement, je prends la vérité, je me la mets dans mon cœur, mélange tout ça avec mes propres hormones. Si ça me plaît, je garde, ça ne me plaît pas, j'enlève. Et je garde que ce qui me plaît. Sentimentalisme. Et c'est pour ça que Saint-Pilice, il l'a dit plusieurs fois, il va le redire dans la deuxième partie de l'encyclique, il va le redire plusieurs fois, il va dire, le modernisme a détruit toute la foi, il ne reste que le sentiment. C'est tout. Je suis les sentiments. Vous voyez? Alors, prenez un dogme de foi essentiel. Hors de l'Église catholique, pas de salut. Bon, deuxième dogme de foi essentiel qui rejoint le premier, le baptême est nécessaire au salut. Celui qui croit et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. Pour moi, qui dit c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est en Dieu ne peut pas se tromper. Bon, qu'est-ce qu'il va dire le moderniste? Mon petit cœur me dit que c'est trop dur. Comprenez, monsieur l'abbé, il ne faut pas dire ça, c'est pas très gentil pour les musulmans, pour les bouddhistes et ceux qui ne sont pas catholiques. Vous n'avez pas le droit d'enseigner, hors de l'église catholique, il n'y a pas de salut. Pour qui vous prenez-vous? Mon cœur me dit que toutes les religions se valent, toutes les religions ont la même valeur, parce que toutes les religions peuvent être, par immanentisme, adaptées à ma, c'est ma foi personnelle qui va prendre ce que je veux garder dans ce que me proposent les religions. Vous voyez? Et c'est terrible parce que ça c'est maintenant passé partout et c'est pour ça que les gens perdent la foi. Et les gens perdent la foi par millions. Je serais curieux de savoir quel est le chiffre officiel, réel, de pratiques religieuses en France, pratiques religieuses catholiques. Il y a des gens qui, en France, vont à la messe, même si ces messes modernes ne sont sans doute pas valides, qui vont au moins à leur messe à eux, tous les dimanches. Les fêtes d'obligation, qui se confessent, diront, 2-3 fois par an, et qui prient un peu tous les jours. Je ne sais pas quel est le pourcentage, mais c'est certainement largement en dessous du 1%. En face de ça, vous avez les musulmans, qui représentent 20% au moins des Français, qui eux prient tous les jours. Le musulman, il manque pas sa prière, je crois que c'est 7 fois par jour. Je sais pas exactement, je connais mal l'islam, mais vous voyez, ça c'est fondamental. Et c'est pour ça que cette phrase de Saint-Pélis est fondamentale. Dieu est immanent dans l'homme pour le moderniste. C'est l'immanence théologique. L'immanence théologique nous empêche de nous attacher à quelque chose de fixe. Qui dit immanence théologique dit le sentiment prime sur l'intelligence. Donc l'intelligence ne s'adapte, n'est plus du tout adaptée, l'intelligence humaine n'est plus du tout adaptée à ces choses-là. Et donc chacun fait sa propre vérité. L'immanence théologique, ça veut dire je fais ma vérité et j'adapte ma vérité à la réalité en fonction de mon sentiment sur le sujet. Je fais ma vérité, je prends le catéchisme. Si ça me plaît, je garde, si ça ne me plaît pas, j'enlève. Si je comprends pas, je refuse. Si je comprends et que ça me plaît, mon petit cœur me dit que ça me plaît, je peux accepter ça, c'est bon. Et c'est tout comme ça. Regardez par exemple, l'exemple de sentimentalisme. Tel, les gens qui vont verser des larmes de crocodile, par exemple, sur la peine de mort. Bon. Ah, c'est épouvantable, ce pauvre monsieur qui est dans l'allée des condamnés à mort en prison et qui va passer à la guillotine, je sais pas s'il utilise toujours la guillotine aujourd'hui pour condamner à mort, enfin qui va passer à la guillotine, c'est épouvantable, il va souffrir énormément. L'homme en question, est-ce que vous essayez de réfléchir à raison pour laquelle cette personne est condamnée à mort? Cette personne est condamnée à mort parce qu'il a violé par exemple une vingtaine de personnes et a trucidé je ne sais pas combien d'enfants. Mais attendez! Et les enfants, par où ils sont passés? La vingtaine de femmes qui ont été violées par cette personne, par quels affreux sentiments elles sont passées à cause de cet homme? Alors c'est uniquement le sentiment. Le sentiment me dit que la peine de mort est quelque chose de mauvais. Et tout comme ça. Pour le baptême, c'est pareil. Pour le baptême, c'est pareil. Or, le baptême est nécessaire au salut. Mais monsieur le bébé, vous ne vous pas compte, vous voulez dire que ce petit bébé qui n'est pas baptisé, il n'ira jamais au ciel? Ben non, on ne peut pas aller au ciel parce qu'il n'est pas baptisé. Monsieur l'abbé, voyons, c'est pas possible. Il est tout mignon ce petit bébé. Il est peut-être tout mignon ce petit bébé, mais il ne peut pas aller au ciel s'il n'y a pas de baptême. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il est péché originel. Ah, mais ce n'est pas de sa faute. Mon cœur me dit que ce n'est pas possible. Pas possible que Dieu soit comme ça. Non, mais attendez, c'est qui décide? Et c'est ça qu'on enseigne tout le temps. Regardez les prêtres modernes, c'est épouvantable. Les prêtres modernes, c'est comme ça. Moi, j'ai encore eu, je m'excuse de donner des exemples un peu directs, mais enfin, en principe, je pense que je peux quand même donner cet exemple-là, parce qu'en principe, je pense que ces cours sont étudiés que par des adultes. Je ne pense pas qu'il y ait des enfants qui écoutent ces cours. Mais s'il y a un enfant qui écoute mes cours, qui ferme ses oreilles pendant 2 minutes, j'ai reçu un message encore ahurissant, une personne que je ne connais pas, qui m'a dit, monsieur l'abbé, je suis allé voir un prêtre de la fraternité Saint-Pierre, donc soi-disant traditionnel, qui dit la messe traditionnelle, qui est un prêtre âgé de la fraternité Saint-Pierre, pour lui demander si la masturbation était un péché. Réponse du prêtre, non, ce n'est pas un péché. C'est un manque de contrôle de soi-même. Non, mais on va où comme ça? Vous vous rendez compte? L'adolescent qui va voir ce prêtre de bonne foi, qui demande, est-ce que c'est un péché? Le prêtre lui dit, c'est pas un péché, ça veut dire quoi? Mais allez-y, pratiquez ce genre de choses, c'est pas un péché, vous pouvez y aller. Vous vous rendez compte la responsabilité de ce prêtre devant Dieu? Comment voulez-vous qu'on rattrape les choses, nous, après? Après, ces jeunes, s'ils arrivent aux retraites, non pas avec la fraternité Saint-Pierre, on leur a sonné des ordres de ce genre, encore, je ne pense pas que tous les prêtres de la fraternité Saint-Pierre en sonnent ça, je ne sais pas ce que je dis. Mais là, c'était un prêtre de la fraternité Saint-Pierre, je n'ai pas son nom. Et d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas trop. Mais il faut que les parents se rendent compte. Attention! Imaginez les catastrophes que va faire un jeune prêtre, un prêtre moderne, moderniste d'aujourd'hui. Un jeune va voir ce prêtre en lui disant, voilà, mais je vis en concubinage avec ma petite amie, on se marierait dans 2-3 ans, une fois qu'on aura fini nos études. Mais bien sûr, mon petit, le bon Dieu vous aime tel que vous êtes. Mais vous rendez compte les portes qu'on ouvre là? On dit aux gens, le prêtre dit aux gens, allez-y, continuez de vivre dans le péché. C'est quoi en fait? C'est de la théologie immanentiste, c'est de l'immanence théologique. Le sentiment prime sur la foi. On oublie la foi, on oublie le catéchisme, le sentiment prend la place. Le catéchisme dit, œuvre de chair ne désirera qu'au mariage seulement. Mon cœur me dit, ça ne me plaît pas parce que moi j'aime la petite fille à côté, j'aimerais bien vivre avec elle pendant quelques temps parce que c'est plus amusant pour moi, plus intéressant. Donc mon cœur me dit que c'est bon puisque ça me plaît, donc je peux vivre avec elle. Le catholique, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce catéchisme et il vérifie. Le catéchisme dit, œuvre de chair ne désirera qu'au mariage seulement. Tu ne commettras pas l'impureté, tu ne désireras pas la femme de ton prochain. Celui qui regarde la femme de son prochain avec convoitise a déjà commis l'adultère dans son cœur. Point, barre. C'est clair, c'est net, c'est précis. Si vous êtes à la foi catholique, qu'est-ce que vous dites? Ben voilà, ça c'est l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Si je veux aller au ciel, voilà ce que je dois suivre. Si je suis moderniste, je veux dire quoi? Ça ne me plaît pas. Donc moi, je suis mon petit cœur qui me dit que c'est mon cœur qui commande. Et donc, j'accepte, je peux vivre n'importe comment, alléluia, et aller au ciel quand même. Et c'est pour ça que les gens se damnent. Donc la porte, le chemin le plus court pour aller au ciel, c'est pour aller en enfer, pardon. Le raccourci le plus efficace pour tomber en enfer, c'est le modernisme. Hein. Parce que le modernisme, justement, enseigne que Dieu est immanent dans l'homme. Dieu vit en moi et c'est moi qui décide ce que je vais accepter d'enseignement divin. Donc le modernisme ne peut pas supporter un catéchisme. Et Mgr Lefebvre me disait avec raison, un moderniste dans son milieu est inconvertissable. C'est vrai, un moderniste qui est imprégné de modernisme ne peut plus se convertir parce que c'est son cœur qui dirige. C'est son cœur qui dirige. Et donc il va dire, 10 commandements, oui, le catéchisme dit qu'il y a 10 commandements, mais mon cœur me dit que c'est trop. Quand même aujourd'hui, en 2021, 10 commandements, enfin, monsieur l'abbé, on est au temps où les hommes sont envoyés dans la lune, voyons. Oh, quand même, monsieur l'abbé, 10 commandements, je lis, c'est beaucoup trop. Puis 6e et 9e, quand même, non, plus aujourd'hui. Vous voyez? Et regardez par exemple ce qui s'est passé avec ces horreurs de la cérémonie d'inauguration des Jeux Olympiques. Là, moi, je ne l'ai pas vu, j'ai regardé 30 secondes. Une bonne femme qui se dandinait pour une des danses d'homme de Cro-Magnon, il n'y a pas d'autre mot à dire, je ne sais pas qui c'était, je ne sais rien, ça ne m'intéresse pas. J'avais déjà envie de vomir parce que tellement c'était de mauvais goût et laid comme tout. Eh bien, on voyait très bien, il y a un message qui passe derrière. Quel est le message? Le message, c'est la dépénalisation, c'est le message qui, à mon avis, moi j'ai pas regardé encore, et je regarderai pas ces horreurs-là, mais le message, d'après ce que j'ai compris, était très clair de la part de Macron et de ses petits copains, il faut dépénaliser tous les vices contre nature. C'est pour ça que c'était couvert de ces trucs-là, tous ceux qui l'ont vu m'ont dit la même chose, c'était couvert de toute une propagande LGBT monstrueuse, à tel point qu'il y a même des pays arabes dans lesquels l'homosexualité n'est pas acceptée. Croyez-moi, dans certains pays arabes, c'est la peine de mort pour ces sévices contre nature. Eh bien, il y a des pays LGBT, des pays arabes qui ont interdit la diffusion. Il y a des plaintes qui sont déposées actuellement aux États-Unis par des familles qui ont dit aux chaînes de télévision, vous avez diffusé en prime time, en temps, à une époque de la journée de grande audience, c'est ce qu'on dit, de grande audience, je reconnais en français, de grande audience, des scènes qui sont absolument pornographiques, ou qui poussent à la pornographie, qui poussent au vice contre nature. Je porte plainte contre votre chaîne, vous n'aviez pas le droit de publier ces choses-là à des temps de grande audience. Vous voyez ? Et la France est ridiculisée avec toutes ces histoires-là. Et c'est plus, ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'on finit par considérer que ces choses tout à fait anormales, ces vices qui crient vengeance contre le ciel, comme le dit le catéchisme du Concile de Trente, ces vices qui crient vengeance contre le ciel sont devenus des choses complètement normales.
C'est une infime minorité.
Mais bien sûr. Mais c'est en train de devenir, c'était une infime minorité au début, et c'est en train de prendre, de se multiplier à l'infini, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus simple. Comme nous disait l'exemple que nous disait Monseigneur Lefebvre en Afrique, il nous disait, mais évidemment, c'est bien plus simple de dire aux gens, vous pouvez avoir quatre femmes que d'en avoir qu'une. Bon, c'est bien plus simple de dire aux gens, vous pouvez avoir quatre femmes, et puis s'il y en a une qui ne vous plaît pas, vous l'envoyez par la fenêtre, vous l'envoyez au crocodile, vous en prenez une autre, du moment où vous ne dépassez pas les quatre, c'est tout bon. Bon, et puis, évidemment, si la foi catholique arrive après en disant, attention, il n'y en a qu'une, vous pouvez en avoir qu'une, et on le voit très bien chez les missionnaires qui avaient encore la foi, le grand problème de la conversion en Afrique noire, c'était le fait qu'ils acceptent la pluralité des femmes, la polygamie. Et quand des jeunes, des gens venaient demander le baptême, le grand problème, c'était la polygamie. Si vous voulez être baptisé, il y a une condition sine qua non, c'est une femme, pas quatre, ni deux, ni trois, une. Alors c'est un tel bazar que le pape Pie XI avait, pour faciliter les choses, avait laissé ces gens-là libres. Vous n'avez pas le droit d'avoir plus d'une femme, et vous êtes marié pour la vie. Bon, mais quand vous en avez quatre, vous pouvez refuser les quatre et en prendre une. À l'extérieur, une femme catholique, par exemple, si vous voulez devenir catholique, et vous gardez celle-là toute la vie. Vous n'êtes pas obligé de prendre une des quatre, puisque pour faciliter les choses, aider les conversions, puis on s'est allé jusqu'à là, il avait raison. En disant, vous pouvez enlever complètement les quatre femmes qui sont avec vous, parce qu'elles ne vous en voulaient pas, vous voulez devenir catholique maintenant, prendre une épouse catholique, très bien. Mais attention, une fois que vous êtes marié, c'est pour la vie. Et je le vois, les catastrophes. Je suis obligé de dire aux jeunes, attention, quand vous commencez à avoir des problèmes de mariage, malheureusement, c'est des choses qui arrivent, hein. Le nombre de mariages aujourd'hui qui marchent sur trois pattes, comme on dit, c'est très fréquent. C'est tous les jeunes. Eh bien, je suis obligé de dire aux gens, surtout n'allez pas voir les prêtres modernes. Parce que les prêtres modernes vont vous dire, mais j'ai eu des tas de cas comme ça, les gens vont voir le prêtre moderne, ils sont complètement modernistes, donc ils croient qu'il n'y a que le sentiment qui compte. Et vous allez dire, voilà, mais je commence à avoir de grosses difficultés avec mon épouse, on dispute souvent, qu'est-ce que vous nous conseillez? Mais 9 prêtres sur 10, déjà dans l'église moderne, vont dire, mais demandez une annulation de mariage. C'est tout. C'est 250 €, c'est rapide, vous demandez une annulation de mariage, hop, le mariage est supprimé, vous mariez. Alléluia. Oui, parce que nous, on a un grand cœur. On n'est pas comme ces intégristes là. N'allez pas voir les prêtres intégristes. Les intégristes, ils vont vous dire, attention, vous êtes marié pour la vie. Et vous êtes obligé de garder cette épouse que vous avez choisie. Donc la vie, mais monsieur l'abbé, je l'aime pas. Et puis elle rate la cuisine tous les jours. Et à chaque fois que je rentre, il y a un grand nuage de fumée noire dans la cuisine. Elle a tout brûlé, donc j'en veux plus. Ben, je suis désolé, mais vous allez apprendre ou à votre épouse à faire la cuisine correctement, ou vous allez apprendre à manger brûlé, mais vous gardez votre épouse, parce que c'est votre épouse, vous ne pouvez pas changer. Oui, ça c'est fondamental. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre ces choses-là, parce que le modernisme semble tellement, tellement foutoir, je m'excuse du terme, c'est un mélange de tout, rappelez-vous la définition de Saint-Pélice, égout collecteur de toutes les hérésies. Il y a des erreurs partout, vous voyez, c'est ce que dit Saint-Pélice, rappelez-vous. On serait tenté de croire que les modernistes tombent en contradiction avec eux-mêmes, qui sont aussi incertains. Loin de là, tout est pesé, tout est voulu chez eux, mais à la lumière de ce principe que la foi et la science sont l'une à l'autre étrangères. Je décide ce qui me plaît. Et ce qui me plaît doit plaire à Dieu. Et si ça ne plaît pas à Dieu, tant pis pour Dieu. Je garde ce qui me plaît, et ce qui me plaît devient ma vérité. Et donc, ce qui me plaît devient mon dogme. C'est plus les dogmes de l'Église catholique, sont mes dogmes. Voilà pourquoi, maintenant, vous avez dans l'Église officielle de l'Église de Vatican II, vous avez officiellement des tas de gens qui demandent un changement complet du catéchisme. Et qui disent, Surtout, les pires de tous, ce sont les religieuses recyclées qui disent « Le catéchisme, c'est fini, on n'en veut plus. Le catéchisme de Saint-Pédis, le catéchisme du Concile des Trente, c'est fini, c'est terminé, à la poubelle. On veut des choses nouvelles parce que tout cet enseignement du catéchisme n'est plus applicable en 2024. » En 2024, la foi catholique n'a pas changé d'un iota. On ne peut pas changer d'un iota la foi catholique. Ce qui était vrai il y a 2000 ans est vrai aujourd'hui, sera vrai dans 20 000 ans. On ne peut pas changer tout ça. Vous voyez ? Alors, cette phrase est importante, je vous la répète. Le modernisme, qu'est-ce qu'il veut ? Concilier la science et la foi, tout naturellement, par subordination de la foi à la science. Science, c'est l'homme, foi, c'est Dieu. Donc on subordonne la foi à la science, donc on subordonne Dieu à la science. L'homme devient Dieu, et l'homme devenant Dieu, met le vrai Dieu à la porte. Dieu passe à la trappe. Dieu passe à la trappe. D'accord ? Alors, l'exemple classique de cette immanence théologique, je vous l'ai dit, c'est la grâce, et la grâce est naturelle à l'homme. La grâce est naturelle à l'homme, ça c'est l'enseignement, c'est surtout été enseigné par Ratzinger, qui est devenu Benoît XVI, c'est enseigné par Bergoglio, la grâce est naturelle à l'homme, donc tous les hommes ont l'état de grâce et ne peuvent pas le perdre. Donc l'homme ne peut pas perdre l'état de grâce. L'homme ne peut pas, donc, par le péché, perdre la grâce sanctifiante. Conséquence logique, quelles sont les conséquences pour Bergoglio ? Bergoglio a publié un texte il n'y a pas très longtemps, c'était l'année dernière, ou deux ans, si mes souvenirs sont exacts, disant, j'interdis formellement à tous les prêtres catholiques de refuser l'absolution à quiconque. Vous confessez quelqu'un, vous devez donner l'absolution. Donc le monsieur qui vient à moi en me disant, voilà, monsieur l'abbé, moi je suis un homosexuel, je vis que l'homosexualité, vous me devez l'absolution, a dit Bergoglio. Attendez, je vais vous donner l'absolution, vous voyez, dans le péché contre nature. Monsieur, je vis avec la femme de mon voisin, je l'ai empruntée, j'ai oublié de la rendre. Alors monsieur l'abbé, Bergoglio a dit qu'il fallait me donner l'absolution. Ah mais attendez, ça ne s'appelle pas l'adultère, ça ? Ah non, non, parce que Bergoglio a dit qu'il fallait me donner l'absolution. J'ai volé 10 000 euros d'un portefeuille du voisin, c'est dans ma poche, le gars, je vais acheter des caramels mous avec ça. Oui, je sais que ça ne vous plaît pas, monsieur l'abbé, mais Bergoglio m'a dit qu'il fallait me donner l'absolution. Donc, vous donnez l'absolution, après je communie tranquillement. Oui, je ne sais pas si vous réalisez les conséquences au niveau de la foi. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Les conséquences au niveau de la foi. Quand on explique ça aux gens, j'ai eu plusieurs catholiques qui m'ont dit, mais c'est pas possible qu'il y ait eu dans l'Église des gens qui, restant dans l'Église, voulaient enseigner des inepties pareilles. Malheureusement, oui. Et rappelez-vous ce qu'a dit Saint-Pédis, ces gens sont dans l'Église, ils connaissent exactement où il faut frapper, et leurs coups sont d'autant plus dangereux qu'ils savent exactement où les porter. C'est ce que dit Saint-Pédis. Alors on continue. Je reconnais que ces parties-là sont assez compliquées. De même, le philosophe dit Saint-Pédis, les représentations de l'objet de la loi sont des purs symboles. Le croyant ajoutait, l'objet de la loi est Dieu en soi. Le théologien conclut, les représentations de la réalité divine sont donc purement symboliques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que disent actuellement les théologiens. Le théologien moderniste dit donc, les représentations de la réalité divine sont purement symboliques. Ça veut dire quoi ? Quand on représente notre Seigneur Jésus-Christ comme étant Dieu et homme, c'est symbolique. Si je dis qu'il y a un seul Dieu en trois personnes égales et distinctes, c'est purement symbolique. Ça veut dire symbolique. Un symbole, c'est quelque chose qui s'adapte. C'est quelque chose qui peut être changé avec le temps. Donc, le symbole, c'est pas quelque chose de fixe. Donc, il n'y a plus la foi, il n'y a plus rien. Il ne reste plus rien. Donc le théologien moderniste va vous dire logiquement, la présence réelle, c'est un symbole. Donc si la présence réelle n'est qu'un symbole, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas présent avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, dans l'hostie consacrée, après les paroles de la consécration, puisque c'est purement symbolique. Donc chacun fait qu'à sa tête. Et c'est ce qu'enseignent les prêtres modernistes. Et il ne faut pas me dire, mais vous exagérez, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Les prêtres modernistes ne croient plus à toutes ces choses-là, parce que pour eux, tout devient symbolique. C'est un symbole qui passe en plus par le filtre de ma foi, c'est un symbole qui passe au filtre des sentiments. Un symbole plus ses sentiments. Il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien, et du coup, ben, tout s'écroule. Tout s'écroule. Donc la présence réelle n'existe plus. La présence réelle n'existe plus. Demandez aux prêtres modernes, est-ce que vous croyez en la présence réelle? Alors faites attention, vous ne faites pas rouler. Parce que vous allez voir le prêtre moderniste et vous lui demandez, monsieur le curé, la présence réelle, vous y croyez? Oui, j'y crois. Monsieur le curé, vous croyez à la présence réelle? Oui, j'y crois, pas de problème. C'est bon, attention. La présence réelle auquel croit ce curé n'a rien à voir avec la présence réelle à laquelle je crois en tant que prêtre catholique. Parce que si vous posez la question, la question au curé, est-ce qu'il y a présence réelle pendant le sacrifice de la messe avec la transsubstantiation, changement de la substance du pain qui se change dans la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous y croyez? Qu'est-ce que va vous répondre le prêtre moderniste? On dit, comme tu veux, tu choisis. Qu'est-ce que tu veux? Ça dépend de ton cœur. Si ton cœur pense que notre Seigneur Jésus-Christ est là, ben très bien, c'est qu'il est là. Et en fait, quand vous interrogez, monsieur le curé, est-ce que vous croyez que notre Seigneur Jésus-Christ est présent avec son corps, son sang, son âme et sa divinité après les paroles de la consécration? Il va vous répondre, mais non, voyons, c'est un symbole. Mais vous venez de me dire que vous croyez à la présence réelle. Et oui, j'y crois de façon symbolique. Donc quand le prêtre vous dit « je crois en la présence réelle », c'est symbolique pour lui. C'est comme quand vous demandez, le protestant est comme ça, c'était terrible, et les prêtres modernes sont comme ça aussi. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu? Oui, je crois que notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est fils de Dieu? Oui, je crois. Mais c'est des mots à eux. Et quand vous les interrogez, vous les coincez là-dessus, est-ce que vous croyez que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment fils de Dieu avec une nature humaine comme celle du Père et du Saint-Esprit? Il va vous dire, mais non, voyons, c'est un symbole tout ça. C'est purement symbolique. Il ne reste plus rien. Vous voyez, il ne reste plus rien. Et c'est là où la plupart des prêtres modernes, pour revenir à la présence réelle, vont vous sortir la phrase qui est devenu pour eux un leitmotiv, qui sort tout le temps, mais la présence réelle, c'est comme la présence de Beethoven, une symphonie de Beethoven qui est jouée par un orchestre. Voilà. Qu'est-ce qui reste de notre Seigneur Jésus-Christ? Derrière moi, il y a le bon Dieu qui est là dans le tabernacle. Il n'est pas là de façon symbolique. Hein. C'est pas le symbole de notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Non, il est là, vraiment, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et la messe, c'est un symbole? Ah mais on fait mémoire de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous, mais pas du tout. Vous faites mémoire aussi, c'est vrai. Mais c'est bien plus que faire mémoire. La messe, c'est le renouvellement non sanglant des sacrifices actuels de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque je prononce les paroles de la Sainte Eucharistie, Dieu descend sur l'autel, le même Dieu qui est mort sur la croix dans son humanité, le Vendredi Saint, le même Dieu qui s'est incarné dans le Saint-Très-Pur de notre Sainte Vierge Marie le 25 mars. Quand Dieu, l'humanité et la divinité se sont rassemblés dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, avec une seule personne, une double nature, notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment Dieu, vraiment homme. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Maintenant, je suis obligé maintenant de faire extrêmement attention, de dire aux gens, attention, à ne pas aller prendre conseil auprès d'assassins, d'âmes, qui vont vous envoyer en enfer. Parce que quand un prêtre ose dire à un jeune de 17 ans, la masturbation n'est pas un péché, il y a un message qui passe. C'est clair. Le message est, tu peux y aller. Quand un prêtre dit à deux jeunes qui vivent en concubinage avant le mariage, qui vivent à la colle, comme on dit, ne vous inquiétez pas, Dieu vous aime tel que vous êtes. Il y a un message qui passe. Vous pouvez continuer. Du coup, ces jeunes, ils vont vivre comme ça pendant 3 ans, ils vont se marier un jour ou l'autre, ce sera du n'importe quoi. Il n'y aura même pas de confession. J'ai eu des tas de cas de jeunes qui se sont mariés et qui m'ont dit, mais monsieur l'abbé, le curé ne nous a jamais dit qu'il fallait nous confesser avant le mariage. On vivait à la colle depuis 3 ans ou 4 ans ou 5 ans ensemble. Le prêtre ne nous a jamais dit qu'il fallait se confesser. Jamais. On voit ça constamment en retraite. Donc, première chose à faire, quand j'ai des gens comme ça qui viennent me voir et qui commencent à se poser des questions, parce qu'heureusement, il y a quand même qui se posent certaines questions, qui viennent voir le prêtre catholique en disant, monsieur l'abbé, Je suis allé voir le prêtre m'a dit qu'il n'y a pas de problème, je pouvais vivre à la colle comme ça, et puis dans quelques années, je pourrais me marier. Est-ce que c'est correct? Mais non, madame, mais non, monsieur, ce n'est pas correct du tout. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a institué un sacrement qui s'appelle le sacrement de mariage. On ne peut pas vivre ensemble sans être marié religieusement. Et pour être marié religieusement, il faut être libre d'être marié religieusement. Donc il faut être certain que vous n'avez jamais été marié auparavant avec quelqu'un d'autre. Ah, mais moi, j'ai été marié religieusement, mais j'ai eu une annulation de mariage et je suis remarié. Ah ben. Allez voir le prêtre moderne, parce que pour eux, ils s'en fichent. Mais ici, c'est l'Église catholique, monsieur. Le mariage catholique est indissoluble. Ah oui, mais je l'aime plus la première. Elle est mariée, elle m'a abandonné, elle est partie avec quelqu'un. Le mariage catholique est indissoluble. Mais vous savez, qu'est-ce que je fais? Indissoluble. Évidente? Oui. Je peux lui tordre le cou? Non. Je peux prier pour qu'elle meure? Oui. Je devrais prier pour qu'elle meure. Mais vous n'avez pas d'arranger votre prière pour que ça sorte un peu plus vite. Vous ne pouvez pas changer ces choses-là. Et les modernistes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quand vous leur dites ça, après, parfois, ben, c'est à mourir de rire, enfin, ou à pleurer plutôt. Parce que ces gens viennent nous voir, on leur dit ça. Puis après, ils vont voir leur curé moderne. La belle fille, il m'a dit que le mariage catholique est indissoluble et que je ne pouvais pas me remarier parce que je suis déjà marié une première fois à l'église catholique avec la première. Qu'est-ce qu'ils vont dire, les curés modernes? Mais ce prêtre, il n'est pas catholique, mon ami. Ah, d'un seul coup, le mot catholique ressort. Ce prêtre, il n'est pas catholique, mon ami. C'est ridicule. Ça, c'est les anciennes croyances du Moyen-Âge. C'est fini, c'est terminé. C'est pour ça que l'évêque d'Albi vient publier un texte pour dire que je ne suis pas catholique. C'est gentil de sa part. Je suis très fier. Très fier, parce que son catholicisme et le mien, ce n'est pas le même, effectivement. La messe qui sera dite à Tanus le 15 août, après l'évêque d'Albi, et le prêtre qui va célébrer cette messe, et la chapelle qui va s'ouvrir à Tanus le 15 août, ne sont pas catholiques. Parce qu'on n'a pas la même religion, c'est tout. Vous voyez? Et c'est ça. C'est là où, quand vous avez un cas comme ça, le curé moderne va dire à ces gens-là, mais vous pouvez continuer comme ça, il n'y a pas de problème. Si les gens réfléchissent, et Dieu merci, il y en a, qui font exprès de retourner voir le curé, mais pour mettre le curé au pied du mur, et à ce moment-là, ils se lèvent, et ils disent au curé, monsieur le curé, entre votre doctrine et la doctrine qui a 2000 ans que représente l'abbé Lafitte, je prends la doctrine représentée par monsieur l'abbé Lafitte, la doctrine catholique, parce qu'on a ouvert un catéchisme de Saint-Pédis. Et on s'est aperçu que ce que racontait la belle fille correspondait parfaitement à ce qu'enseignait le catéchisme du Saint-Pélis. Donc on va là-bas. Et vous ne reverrez plus. Et puis, monsieur le curé, l'argent que je vous versais tout automatiquement, 20 euros tous les mois ou toutes les semaines, depuis mon compte en banque, c'est fini. Puis maintenant, ça va chez la belle fille. C'est tout, c'est comme ça. Vous voyez? Donc ça, c'est l'immanence vitale. Il faut comprendre que ce modernisme, c'est l'immanence vitale. Il ne faut pas imaginer le modernisme comme quelque chose de purement artificiel, purement intellectuel. C'est dans la vie de tous les jours. Quand un prêtre dit aux jeunes, vous pouvez commettre tous ces péchés, la pureté, ce ne sont plus des péchés, c'est du modernisme. Quand un prêtre dit aux gens, vous pouvez vous marier plusieurs fois et annuler votre mariage, c'est du modernisme. Quand les gens, les prêtres disent aux musulmans, vous pouvez avoir le ciel comme ça parce que c'est le même Dieu pour toutes les religions, et il n'y a pas besoin du baptême pour aller au ciel, c'est du modernisme. Le modernisme, c'est de la pratique, attention. D'accord? Les représentations, donc, je reprends le texte de Saint-Pédis, les représentations de la réalité divine sont donc purement symboliques. Symbolisme théologique, ainsi une erreur plus pernicieuse l'une que l'autre, ainsi qu'on va le voir clairement par les conséquences. Et Saint-Pédis va maintenant travailler sur les conséquences de ce symbolisme. Parce que si toute la foi catholique n'est fait que de symboles, il n'y a plus de foi catholique. Il n'y a plus rien du tout. Tout s'écroule. D'accord? Pour commencer, alors c'est des textes un peu compliqués, je vais essayer de vous les expliquer. Pour commencer par le symbolisme. Comme les symboles sont tout ensemble, et symboles au regard de l'objet, et instruments au regard du sujet, il découle de là deux conséquences. La première, c'est que le croyant ne doit point adhérer précisément à la formule. En tant que formule, mais en user purement pour atteindre à la vérité absolue que la formule voile et dévoile en même temps qu'elle fait effort, pour exprimer sans y parvenir jamais. Je cite le texte, après je vais expliquer. La seconde, c'est que le croyant doit employer ces formules dans la mesure où elles peuvent lui servir. Car c'est pour seconder sa foi, non pour l'entraver, qu'elles lui sont données. Se réserve toujours du respect social qui leur est dû, pour autant que le magistère public les aura jugés aptes à traduire la conscience commune jusqu'à ce qu'il ait réformé ce jugement. Je ne sais pas si vous voyez la gravité de ce qui est dit. Le moderniste dit, le croyant doit employer ses formules. Ces formules, c'est de quoi? De quoi il s'agit là? C'est du dogme. C'est des formules dogmatiques. Par exemple, notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Formule. C'est que le croyant doit employer ses formules dans la mesure où elles peuvent lui servir. Le dogme dit, Dieu est présent dans la Sainte Eucharistie après les paroles de la consécration. Dogme de foi. Moderniste dit, je vais accepter ces formules, cette formule de dogme, cette formule dogmatique, dans la mesure où cette formule peut me servir. Ça veut dire quoi? Je vais accepter cette formule dans la mesure où je l'aime, dans la mesure où elle me plaît, dans la mesure où je suis d'accord, dans la mesure où je peux en tirer quelque chose. D'accord? Et le Sabellis explique, le moderniste dit que le croyant ne doit pas adhérer à la formule, il est libre. Donc les dogmes n'ont plus rien à faire. Le dogme de foi, ça n'existe plus pour un moderniste, parce que tout doit être changé, adapté au temps présent. Donc un moderniste, qu'est-ce qu'il va faire? Vous lui présentez le catéchisme de Saint-Pédis, écrit en 1910. Et vous ne croyez pas, faites l'expérience pour ceux qui le veulent. Vous prenez le catéchisme de Saint-Pédis et vous allez voir votre curé, pour ceux qui vont encore à la nouvelle messe. Vous allez voir votre curé moderne. Il va dire, ah, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un cadeau là pour mon anniversaire, il m'a donné, ça s'appelle le catéchisme de Saint-Pie X de 1910. Je peux lire ça, monsieur le curé, c'est un bon livre ça. Le curé va regarder le bouquin, il dit, mais il est fou la personne qui vous a envoyé ça. Ah oui, c'est quelqu'un qui est dans la tradition. Ouh là là, oui, oui, il a été ordonné prêtre par Monseigneur Lefebvre. Ah, oh, mon pauvre ami, Monseigneur Lefebvre, mais c'est... Hors de l'église, un hérétique, un schismatique, un excommunié, un complotiste, tout ce que vous voulez, il ne faut plus accepter ça. Ça, c'est 1910, mais mon pauvre ami, on est en 2024, voyons. Et les dogmes de 1910 sont plus valables aujourd'hui. Mais non, il n'y a plus de dogmes aujourd'hui. C'est fini les dogmes. Fini les dogmes, chacun, par immanentisme, interprète le dogme comme il veut, comme ça lui plaît, et garde ce qui lui plaît. Il n'y a plus rien. Il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. On est en plein protestantisme. Le protestant, c'est comme ça. D'accord? Donc, le croyant, dit Saint-Pédis, d'après les modernistes, peut employer ses formules dogmatiques dans la mesure où elles peuvent lui servir. Et il n'est pas obligé d'adhérer à la formule. Donc, il n'en fait qu'à sa tête. Le dogme dit que le mariage est indissoluble. Le mariage chrétien est indissoluble. Mais j'interprète la formule comme je veux. Indissoluble, oui, on fait comme les musulmans. En ce moment, je fais c'est très intéressant, je fais des exercices de kiné, je suis obligé, pour mes genoux, donc je passe une demi-heure par jour, quand j'ai le temps, à faire du vélo d'appartement dans mon bureau, et en même temps, je regarde une petite vidéo, un petit reportage, que j'essaye de prendre en anglais, comme ça je fais de l'anglais en même temps, et sur un truc pas toi trop bête. Bon, en général, c'est sur un pays, c'est sur un... Il y a des choses intéressantes. Des fois, j'ai regardé un truc sur les brise-glaces russes dans le nord, dans les Arctiques, c'est très intéressant. Et bon. Eh bien, c'était typique. J'ai regardé un truc sur l'Iran. L'Iran. Pays musulman. Et donc, le monsieur c'était pas mal fait, d'ailleurs. C'est en général 20 minutes, 25 minutes. Ça présente le pays... avec le pays, sur le plan culinaire, sur le plan politique, sur le plan historique, sur le plan des coutumes. Et puis, il parlait des coutumes iraniennes, des coutumes dans ce pays musulman, c'est-il l'Iran ou un autre. Et il disait, oui, là-bas, le mariage est absolument nécessaire pour pouvoir être avec une femme. Mais, vous pouvez vous marier pour une heure seulement. Oh. Une heure seulement. Donc vous allez voir le représentant d'un religion vous demander un certificat de mariage pour une heure ou pour une journée. Je suis marié pour une journée. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec cette femme. Vous êtes vraiment marié, oui, devant Allah, vous êtes marié pendant une heure, pendant une journée. Mais du moment que le temps est passé, au bout d'une journée, vous n'êtes plus marié. Alors là, attention, là, vous n'avez plus le droit de la toucher, hein, parce que vous n'êtes plus marié. Vous la touchez encore, il faut vous remarier pour une heure de plus. Vous voyez ? Mais ça, c'est ce qui se passe actuellement. C'est ce qui se passe actuellement. Vous voyez ? Vous allez dire, mais monsieur l'abbé, c'est ridicule, ça ne peut pas passer en France. Mais en France, ça arrive. Ça arrive. Parce que les gens disent n'importe quoi, parce que les prêtres ne font plus leur boulot.
On bénit les homos.
Et voilà. Les prêtres peuvent faire n'importe quoi. Parce que les modernes vont vous dire, mais oui, chacun fait sa propre vérité, à chacun sa vérité, à chacun sa façon de concevoir les choses, et vous ne pouvez plus rien dire. Vous voyez ? Alors, je continue ce texte. Pour ce, le numéro 22 dans l'édition que je suis, pour ce qui est de l'immanence, rappelez-vous, l'immanentisme, qui immanerait, je fais à l'intérieur. Manerait, ça veut dire rester, demeurer. Bon. Pour ce qui est de l'immanentisme, il est assez malaisé de savoir sur ce point la vraie pensée des modernistes. Évidemment, il n'y en a pas deux qui pensent la même chose. Tant leurs opinions sont divergentes, dit Saint Pédis. Les uns l'entendent en ce sens que Dieu est plus présent à l'homme que l'homme n'est présent à lui-même. Ce qui est sainement compris est irréprochable. D'autres veulent que l'action de Dieu ne fasse qu'un avec l'action de la nature. Donc on adore la nature. D'accord ? La cause première pénétrant la cause seconde, ce qui est en réalité la ruine de tout l'ordre surnaturel. Donc le moderniste va finir par dire que l'action de Dieu ne fait qu'un avec l'action de la nature. Et donc on divinise la nature et on adore la nature au lieu d'adorer l'auteur de la nature. D'autres enfin expliquent tellement la chose qu'ils se font soupçonner d'interprétation panthéiste, c'est du panthéisme pur et simple, ceux-ci sont d'accord avec eux-mêmes et vraiment logique. Donc on arrive à du panthéisme complet. C'est quoi le panthéisme ? L'adoration de la créature. La suppression, la distinction qui existe entre le créateur et la créature. Il n'y a plus de différence entre le créateur et la créature. Et ça, exemple de panthéisme, on a plein dedans maintenant, les gens qui commencent à dire un chien et un chat ont plus de droits qu'un homme. Un chien et un chat ont plus de droits qu'un homme. Et il y a des gens qui tombent amoureux d'un arbre dans le jardin. Vous voyez ces vidéos avec des hommes qui sont en train de faire des grands amours aux chênes ou aux hêtres qui sont dans leur jardin parce que c'est le lieu de leur Dieu. Mais on en arrive à des abominations, tout ça c'est de l'immanentisme. J'ai vu une fois un truc sur l'Allemagne, qui expliquait qu'il y a des gens en Allemagne qui se prennent pour des chiens. Et donc une laisse, qui ont une muselière, qui se prennent pour des chiens. Ils aboient, et il faut respecter ça parce que chacun est libre. Moi je trouve qu'il faudrait donner à manger à ces gens-là que des os à ronger, et ils ne resteront pas chiens longtemps, ne vous inquiétez pas. Vous avez des professeurs qui nous disent, mais monsieur l'abbé, aujourd'hui, on est obligé de respecter toutes ces bêtises. En France, aujourd'hui, si vous avez un élève qui se prend pour un chat, qui commence à faire des miaou à longueur de journée en classe, vous devez respecter ça parce qu'il est libre. Et si vous donnez une baffe au gamin parce qu'il commence à vous répondre par des miaou, et vous répondez oui monsieur, oui monsieur, oui mademoiselle, oui madame, c'est vous qui êtes en taule. Parce qu'il faut respecter la volonté propre de chaque personne. Immanentisme, c'est ça. Donc ne venez plus, dans l'Église moderne, ne venez plus imposer vos dogmes. Et qui êtes-vous, monsieur l'abbé, pour imposer vos dogmes ? Ce ne sont pas mes dogmes, c'est les dogmes de l'Église, c'est catéchisme. Mais ce catéchisme, il date de 1910. Et alors, parce qu'il date de 1910, il est plus valable. Dieu de 1910, c'est le même Dieu que le Dieu de 2024, hein, bah, aux dernières évaluations. D'accord ? Alors, je continue encore, on avance dans cette partie. C'est une partie qui est la partie la plus compliquée de l'encyclique parce qu'il donne des tas d'exemples très philosophiques et il faut avouer que c'est pas facile. À ce principe d'émanence, dit Saint Pédis, il explique là les conséquences, si vous voulez, les conséquences de l'immanentisme. C'est ce qu'il a dit auparavant. Ainsi des erreurs plus pernicieuses l'une que l'autre, ainsi qu'on va le voir clairement par les conséquences. Donc, il va faire intervenir maintenant, il va expliquer toute une série de conséquences de l'immanentisme. À ce principe d'immanentisme, dit saint Pédice. Il s'en rattache à un autre que l'on a appelé de permanence divine. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il diffère du premier à peu près comme l'expérience transmise par tradition de la cinq expériences individuelles. Un exemple éclairera la chose. Il sera tiré de l'Église et des sacrements. Il ne faut pas s'imaginer, disent les modernistes, que les sacrements et l'Église ont été institués immédiatement par le Jésus-Christ. Cela est en contradiction avec l'agnosticisme qui, en Jésus-Christ, ne voit autre chose qu'un homme dont la conscience, à l'instar de toute conscience humaine, est allée se formant peu à peu avec la loi d'immanence qui répudie les applications faites du dehors, comme ils disent, avec la loi d'évolution qui demande du temps pour le développement des germes, ainsi qu'une série changeante de circonstances avec l'histoire, enfin, qui constate que les choses se sont passées effectivement selon les exigences de ces lois. Qu'est-ce que veut dire ce charabia? Charabia, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, reprenez la phrase, pour un moderniste, il ne faut surtout pas s'imaginer que les sacrements de l'Église ont été institués immédiatement par Jésus-Christ, parce que ça, c'est un dogme. On vient expliquer que pour le moderniste, il ne faut rien affirmer. Chacun est libre d'affirmer ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut. Vous ne voulez surtout pas dire à un moderniste, l'Église et les sacrements ont été institués directement par Dieu. Qu'est-ce qu'ils disent les modernistes? Les modernistes vont vous dire, les sacrements ont été institués par les hommes. C'est les hommes qui ont institué les sacrements. L'Église était instituée par les hommes. C'est humain. C'est une Église humaine, donc on la change. Les sacrements, ça vient des hommes, ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de l'Église. C'est des racontards de théologiens thomistes du temps de saint Thomas. Les hommes sont libres, voyons, monsieur. Il ne faut pas croire que ces choses-là ont été instituées directement, immédiatement par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'homme qui a institué ça. Donc la messe, c'est l'homme. Puisque c'est l'homme qui a institué, il peut désinstituer. Puisque l'homme a affirmé quelque chose un jour, l'homme, il change. Donc la main peut affirmer le contraire de ce qu'il avait affirmé le jour précédent. Rappelez-vous, telle page de leur ouvrage pourrait être signée par un catholique, tournez la page, vous croyez lire un rationaliste. Les modernistes sont comme ça. Ils sont insaisissables parce qu'ils vous disent, ils sont d'accord avec tout le monde. Ils sont d'accord avec tout le monde, mais ils n'en font que leur tête. Ils n'en font que leur tête. C'est pour ça qu'une fois qu'on est tombé dans ces trucs-là, c'est pratiquement impossible de s'en sortir. Impossible de s'en sortir. Ce qui n'empêche point, il faut l'affirmer, que l'Église et les sacrements ont été institués immédiatement par Jésus-Christ. Voilà de quelle manière toutes les consciences, le texte symbolise, toutes les consciences chrétiennes furent enveloppées en quelque sorte dans la conscience du Christ, ainsi que la plante dans son germe, et de même que les rejetons vivent dans la vie du germe, ainsi faut-il que tous les chrétiens vivent dans la vie de Jésus-Christ. Or, la vie de Jésus-Christ est divine, selon la foi, divine sera donc aussi la vie des chrétiens. Je vous lis le texte, après j'explique. C'est pourquoi, s'il arrive que la vie chrétienne, dans la suite des temps, donne naissance au sacrement et à l'Église, on pourra affirmer en toute vérité que l'origine en vient de Jésus-Christ et qu'elle est divine. C'est par le même procédé que la divinité sera octroyée aux saintes Écritures, qu'elle le sera aux dogmes. Là se borne à peu près la théologie des modernistes. Mince bagage sans doute, mais plus que suffisant si l'on tient avec eux que la foi doit en passer par tous les caprices de la science. C'est-à-dire que Dieu peut affirmer certaines choses, je passe ça par le crible de ma volonté propre, par le crible des sentiments, par le crible de l'immanentisme, de l'agnosticisme, de l'évolutionnisme, rappelez-vous ce qu'il vient de dire auparavant, tout passe par les trois filtres. Agnosticisme, je suis sûr de rien. Évolutionnisme, tout change, immanentisme, tout se fait à l'intérieur. Et toutes les vérités divines, oui, je crois que ça vient de Dieu, mais je passe ça par le crible de l'agnosticisme. Attention, on peut être sûr de rien, donc vous n'avez pas le droit d'imposer quoi que ce soit. Je passe ça par le crible de l'évolutionnisme. Oui, ce que l'on me dit est peut-être vrai, mais c'était écrit il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 10 siècles, il y a 2000 ans. Aujourd'hui, ça a changé, évolutionnisme. Troisième chose, immanentisme, ça passe par mon crible personnel. Est-ce que j'accepte cette chose? Et les cours dans les... Je me rappelle quand j'étais gamin, que j'allais, jeune adolescent, j'étais dans un lycée, un des premiers lycées qui s'est mis en grève en 1968, vous voyez un peu, le lycée Jacques Amyot à Auxerre. Bon. Eh bien, les cours, là, il y a une aumônerie. Bon, j'y ai demandé plusieurs fois, bien sûr, j'ai rien appris, j'aurais mieux fait de ne pas y aller. Le prêtre disait toujours, de quoi vous voulez parler? Il expliquait parfois vaguement un dogme de foi, et puis il finissait toujours de la même façon, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous aviez les adolescents qui disaient, la bouche en cœur, moi je ne suis pas d'accord. Le dogme dit que notre Seigneur Jésus-Christ est présent avec le corps, le sang, l'âme et la divinité, notre Seigneur Jésus-Christ, après les paroles de la consécration. Je ne suis pas d'accord, alors je n'accepte pas ça. Par contre, tel autre truc où je veux bien. Et donc, au lieu d'affirmer la foi, les prêtres modernistes de l'époque disaient aux gens, faites ce que vous voulez, vous adaptez ce que vous voulez. Voilà ce qu'enseigne l'Église. Vous savez, maintenant ça change, parce que maintenant il y a Vatican II, puis Vatican II c'est beaucoup trop vieux, parce que Vatican II c'est 62-65. Maintenant, qu'est-ce qu'il demande? Vatican III. Puis quand Vatican III va arriver, d'ailleurs c'est déjà arrivé avec le synode, ils vont demander Vatican IV. Tout comme ça. D'accord? Alors, où est-ce que j'en suis? Voilà, donc vous voyez, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tout passe chez le modernisme par trois filtres. L'évolutionnisme, tout change, l'agnosticisme, on est sûr de rien, l'immanentisme, on fait tout à l'intérieur. Et quand vous avez fait passer le catéchisme par ça, vous prenez une phrase du catéchisme. Notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment Dieu et homme. Dans le seul modernisme, qu'est-ce qu'il fait? Agnosticisme, ah, attendez, je peux être sûr de rien, donc c'est pas certain que ce soit vrai. Ensuite, filtre de l'évolutionnisme. Oui, ça c'était vrai au temps de Saint-Pilice, votre catéchisme il date de 1910, on est en 2024, les choses ont changé. Et puis, immanentisme, je vais filtrer ça avec mes sentiments personnels, ma volonté propre, et on verra ce que ça donne. Et donc, c'est ce que disait Saint-Pilice juste avant. Il ne faut pas s'imaginer, d'après les modernistes, que les sacrements à l'Église étaient institués immédiatement par Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas institué l'Église pour un moderniste, n'a pas institué les sacrements. Les sacrements et l'Église sont les fruits de l'imagination des apôtres. C'est ce qu'enseignent les modernistes. Ce sont les apôtres qui ont institué l'Église le plus tardivement possible. C'est pour ça que les modernistes sont obligés de retarder la rédaction des évangiles le plus tard possible. Ils vont me dire, les évangiles ont été écrits beaucoup plus tardivement, au IIe siècle. Vous voyez? En fait, c'est complètement faux. Le premier évangile, c'est Saint Matthieu. C'était écrit 5-6 ans après, je vais parler d'autres avec moi, mais 5-6 ans après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, en 37, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, le moderniste, lui, n'accepte pas ça, parce que tout change. Et pour eux, justement, ça date, c'est une création des apôtres, ce sont les apôtres qui ont inventé le catéchisme. Donc ce sont les apôtres qui ont inventé les sacrements, c'est pour ça que les modernistes disent que les sacrements à l'Église n'ont pas été institués mais immédiatement par notre Seigneur Jésus-Christ. Qui a institué le baptême? Les apôtres ou notre Seigneur Jésus-Christ? Si le baptême a été institué par les apôtres, alors on peut se tromper, ils peuvent se tromper parce que les apôtres ne sont pas infaillibles. Attention, le pape est infaillible, pas tous les apôtres. Saint-Pierre est infaillible, pas les autres apôtres. Donc si... Ce sont les apôtres qui, d'après les modernistes, ont inventé les sacrements, ont inventé les commandements, ont inventé l'Église, et toute l'Église est une invention tardive de l'Église. Et comme c'est une invention tardive de l'Église, c'est donc une invention humaine qui peut être changée selon les temps. Et donc après, au fur et à mesure, et bien ça change. Qu'est-ce qu'enseigne l'Église? Actuellement, je suis en train de lire Rohrbacher, là, j'en ai encore plusieurs années avant de finir. J'ai à peine lu un volume. Bon. Et Rohrbacher, j'étais en train de finir l'histoire de Saint Léon, bon, au 4e siècle, 5e siècle. Et Saint Léon se bat déjà contre l'Étiquès, contre les Nestoriens, contre tous ces gens-là. Ce sont toutes des hérésies sur l'humanité et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ces hérétiques qui disaient qu'il n'y avait qu'une seule nature en notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui est faux, parce qu'il y a deux natures en notre Seigneur Jésus-Christ, ça c'est l'Étiquès. Ou ceux qui disaient au contraire qu'il y avait deux personnes dans notre Seigneur Jésus-Christ. Une personne humaine, une personne divine. Et donc la Sainte Vierge Marie, elle était mère de la personne humaine et pas de la personne divine. Ça, c'est Nestorius. D'accord? Et qu'est-ce que faisait Saint Léon? Saint Léon reprend constamment les premiers conciles. Nous acceptons tout ce qui a été enseigné par les conciles de Nicée, qui sont du Chalcédoine, les premiers conciles œcuméniques. Tous les premiers conciles œcuméniques, on ne change pas ce qui a été défini par l'Église. Ça a été défini, ça a été protégé par la faillibilité pontificale, on ne change rien. Et à chaque fois, le pape Saint Léon, et après les successeurs de Saint Léon, ont demandé à ce que pour lutter contre ces hérésies, on revient à l'enseignement des pères. Toujours, toujours, on revient à l'enseignement des pères de Saint Ambroise, de Saint Augustin, de Saint...
Inspiré par l'Esprit Saint.
C'est ça. Vous voyez ? Donc, faire extrêmement, extrêmement attention à ça. Alors, on continue un petit peu. Le cours est un peu compliqué aujourd'hui, mais on est presque fini. Courage. De tout ceci, nous laisserons à chacun le soin d'en faire l'application. Ce qui va suivre, elle est aisée. Donc maintenant, on va rentrer dans le domaine plus pratique. Donc on a fini une partie vraiment compliquée. Il va donner des exemples pratiques. Je suis au numéro 25. Nous avons partout. Nous avons surtout parlé jusqu'ici, dit Saint Pédis, de l'origine de la nature de la foi. Or, dans le système des modernistes, la foi a plusieurs rejetons, dont voici les principaux. L'Église, le dogme, le culte, les livres saints sont des rejetons de la foi. Voyons ce qu'ils en disent. Et donc, Saint-Pédis va expliquer ce que disent les modernistes sur le dogme, sur le culte, sur les livres saints. Pour commencer par le dogme, il est si connexe avec la foi que nous avons déjà dû en retracer plus haut l'origine et la nature. Il n'est... Donc le dogme, pour nous catholiques, n'est de qui ? Il n'est de Dieu. C'est Dieu qui donne le dogme. C'est Dieu qui explique que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. C'est Dieu qui explique que hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. C'est Dieu qui explique que le baptême est nécessaire au salut. Bon. Qu'est-ce que disent les modernistes ? Le dogme naît du besoin qu'éprouve le croyant de travailler sur sa pensée religieuse. Comment le charabia ? Le dogme naît du besoin du croyant. C'est le besoin. J'ai besoin de croire que la confession enlève mes péchés. Parce que mon sentiment me dit qu'il faut quelque chose pour effacer les péchés. Donc j'accepte la confession comme un moyen d'effacer les péchés parce que ça me plaît. Donc vous voyez, c'est plus le dogme divin, c'est l'homme qui fait son dogme. Le dogme divin saute complètement. Donc le dogme pour eux naît du besoin qu'éprouve le croyant de travailler sur sa pensée primitive. Ce travail consiste à pénétrer et à expliquer la formule primitive, ce qui ne doit pas s'entendre d'un développement d'ordre rationnel et logique, mais commandé entièrement par les circonstances. Ils l'appellent d'un mot assez obscur, pour qui n'est pas du fait leur langage, ils appellent ça un dogme vital. Vital, ça veut dire qu'un dogme de vie. La vie, ça change, donc le dogme change. Donc le dogme, selon eux, est entièrement commandé par les circonstances. Donc un dogme au XVIe siècle, c'est une vérité qui correspondait à la lutte contre le protestantisme du XVIe siècle. Mais aujourd'hui, en 2024, les circonstances ont changé. Les circonstances ne sont plus les mêmes. Donc ce qui était vrai au XVIe siècle n'est plus vrai aujourd'hui. Il faut changer les dogmes. Les dogmes du XVIe siècle n'existent plus. On prend des dogmes qui s'adaptent à 2024. Donc, avant, l'Église disait que les prêtres devaient pratiquer la vertu de chasteté, hein, pour justement bien expliquer qu'ils étaient mariés avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ça correspondait à une époque, mais aujourd'hui, en 2024, il faut changer les choses et accepter le mariage des prêtres. L'Église, pendant 2000 ans, enseignait qu'une femme ne pouvait pas devenir prêtre. C'était une impossibilité métaphysique, mais aujourd'hui, en 2024, on peut commencer à réfléchir sur les choses. Réflexion pour commencer à changer le dogme qui n'est pas un dogme puisqu'il doit s'adapter aux circonstances qui ne sont pas les mêmes et qui changent constamment. D'accord ? Et donc, organiser par la suite en cours de doctrine ou pour parler avec eux en construction doctrinale, ces nouvelles idées, ces dogmes sont sanctionnés par le magistère public comme répondant à la conscience commune et recevront alors le nom de dogme. C'est-à-dire que si tous les hommes sont d'accord pour telle vérité, l'enseignement de telle vérité, ça devient un dogme. Mais c'est l'homme qui choisit, qui décide ce qui est dogme et ce qui n'est pas dogme. Et donc pour un moderniste, le dogme n'existe pas. Donc vous donnez un catéchisme à un moderniste, il va rire aux éclats en disant « Votre catéchisme de 1910 de Saint-Pédis ne m'intéresse pas. Votre catéchisme du Concile de Trente qui date du XVIe siècle ne m'intéresse pas. On est en 2024. »
Ces gens ne sont pas catholiques.
Oui, mais ils se prétendent catholiques, c'est ça. Et après, vous avez l'évêque d'Albi qui vient me sortir que je ne suis pas catholique. Mais qui est catholique là-dedans ?
Ils se disent chrétiens plus que catholiques.
Oui, mais quand ils le veulent, ils vont utiliser le mot catholique. C'est ça qui m'a frappé dans le texte de l'évêque d'Albi, c'est que là, il a fait exprès d'utiliser le mot catholique, qu'ils n'utilisent jamais d'habitude, jamais. Bergoglio n'utilise jamais le mot catholique, jamais, jamais, jamais. Vous pouvez vérifier, mais je suis sûr qu'il n'y a pas un seul de ces textes où il parle d'église catholique. Il parle d'église synodale maintenant, c'est un grand truc. L'église synode, pourquoi? Parce que ça vient du synode qui était au mois d'octobre 2023. Et pour eux, tout change. Et moi, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, mais attendez, vous voulez m'imposer en 2024 vos dogmes à vous? L'année prochaine, ça va encore changer.
Il a été prorogé jusqu'à octobre 2024.
Oui. L'année prochaine, ça va encore changer. Pourquoi voulez-vous que je vous croie? Puisque l'année prochaine, ça va encore tout changer. Moi, je suis ce qui a toujours été enseigné. Et même dans un moderniste, l'idée que le catéchisme ne peut pas changer parce que ça présente des dogmes fixés par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est impossible. Parce que dans son idée, dans ses idées, tout doit changer, tout doit être adapté. Alors, je finis ici le texte. Du dogme, il faut donc distinguer avec soin les pures spéculations théologiques. Celles-ci, d'ailleurs, pour n'être point vivantes, à proprement parler, de la vie de la foi, ne laissent pas d'avoir leur utilité. Elles servent à concilier la religion avec la science. Donc le dogme sert à concilier la religion avec la science, à supprimer entre elles tout conflit, de même à éclairer extérieurement la religion, à la défendre. Elles peuvent enfin constituer une matière en préparation pour un dogme futur. C'est une soupe! Le dogme n'existe plus, il n'y a plus de dogme pour l'église moderniste. Chacun fait comme il veut en suivant ses propres sentiments. Alors je vais commencer une phrase suivante, vous verrez, qui est une des phrases clés aussi de l'encyclique, du culte. Donc le dogme va entraîner le culte, c'est la transmission du dogme par la liturgie. Du culte, il y aurait peu à dire, si ce n'était que sous ce mot sont compris les sacrements. Or, sur les sacrements, les modernistes greffent de fort graves erreurs. Rappelez-vous ce qui a été dit juste avant, les modernistes ne croient pas que les sacrements ont été institués immédiatement par Jésus-Christ, ou même immédiatement par Jésus-Christ. Pour eux, les sacrements sont des inventions des apôtres. Bon. Le culte naît d'une double nécessité, née d'un besoin, d'un double besoin, car on l'a remarqué, la nécessité, le besoin, est dans leur système la grande et universelle explication. Le dogme ne vient pas de Dieu, le dogme est une invention des apôtres qui ont créé le dogme, qui ont créé les sacrements, qui ont créé les commandements, qui ont créé le catéchisme, parce qu'à leur époque, ça correspondait à un besoin vital. Or, le besoin a changé. Aujourd'hui, le besoin des hommes de 2024 n'est plus le besoin des hommes du temps des apôtres. Donc, la vérité du temps des apôtres n'est plus la même aujourd'hui. Les choses ont changé parce qu'on n'a plus le même besoin. Qu'est-ce qui reste de la foi catholique? Plus rien. Plus rien. D'accord? Alors, ce qui est grave ici, c'est que tout va sauter avec eux. Il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Et on le voit très bien avec les modernistes. Les théologiens, soi-disant les théologiens modernistes, maintenant on parle beaucoup des théologiennes modernistes, c'est très à la mode. Les théologiennes modernistes, il ne reste plus rien. Il n'y a plus une seule page du catéchisme qu'elles acceptent, parce qu'elles vont prendre chaque page du catéchisme traditionnel, vont décortiquer la page, la passer au crible de leur immanentisme, de leur évolutionnisme, de leur agnosticisme, et n'accepter de garder que ce qui leur plaît. Ça me plaît, je garde, ça ne me plaît pas, j'enlève. Donc il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Et vous allez me dire, mais comment ces choses-là sont passées dans les cœurs? Mais regardez les résultats, ils sont là. Ces choses-là sont passées dans les cœurs, et maintenant, là, les gens ont perdu leur foi. Et comment c'est passé dans les cœurs? Comment toutes ces idées qui datent, qui sont condamnées par Saint-Pédis en 1910, attention, il y a plus d'un siècle, comment c'est passé dans toutes les familles? Comment le démon a travaillé pour faire passer toutes ces idées qui étaient condamnées par Saint-Pédis en 1910 dans toutes les familles chrétiennes, par la littérature. Je donne un exemple. Comment les idées de la Révolution, la philosophie des Lumières s'est répandue partout? Par les philosophes des Lumières, notamment Voltaire, qui ont fait, avec la complicité du ministre de la librairie, qu'on appelait la librairie à l'époque, c'est-à-dire le ministre qui s'occupait de la protection des livres. Donc ils ont commencé, Voltaire et les encyclopédistes ont commencé à diffuser des petits bouquins très, très bien écrits, en, bon, en français très facile à lire, des grands ballots, des ballots qui étaient transportés par les colporteurs, donnés dans tous les villages pour que tout le monde puisse lire ces petits ouvrages qui critiquaient le pape, qui critiquaient le sacerdoce, qui critiquaient tous les dogmes catholiques, qui détruisaient complètement la foi des gens. Ce qui fait que quand la révolution est arrivée, tout s'est écroulé parce que tout avait été détruit auparavant. Et bien ils font pareil maintenant. Pourquoi les gens ont perdu la foi? Les gens ont perdu la foi parce que autour des années 60, 70, ça a commencé juste après Vatican II. Vatican II, n'oubliez pas, c'est 62-65. 65, fin de Vatican II. À ce moment-là, des maisons d'édition, soi-disant la bonne presse, c'était le nom de ces maisons d'édition en France, les maisons d'édition commençaient à répandre ces idées dans les familles catholiques par l'intermédiaire de journaux, de magazines. Et les curés ont commencé à faire une publicité monstre pour ces magazines en disant à toutes les familles chrétiennes, il faut avoir ces magazines chez vous. Il faut vous abonner. Et pour être sûr que vous abonnez, on va vous les donner gratuitement. Et on va les mettre au bout de l'église, à la fin de l'église, dans les derniers bancs là. Chacun pourra servir. Il faut vous abonner. Abonnez-vous à Témoignage Chrétien. Abonnez-vous à le Panama Magazine. Abonnez-vous à tous ces machins. La Vie Catholique. Abonnez-vous à tous ces trucs-là. Et c'est par ces journaux qu'ils ont fait passer le modernisme. Les gens voient plus rien, sont incapables de voir les erreurs de ces trucs-là, parce qu'ils n'ont plus les bases, ils n'ont plus leur catéchisme. Donc ils prennent tout ça, c'est facile, c'est bien écrit, c'est du beau papier, il y a des belles images, c'est mignon, et puis on accepte tout ça. On accepte n'importe quoi. J'ai vu des articles, c'était des chefs-d'œuvre d'hypocrisie. Par exemple, ils sont très malins pour ne pas dire les choses en face, pour qu'on ne comprenne jamais ce qu'ils veulent dire. Ils ne vont jamais dire, trouver dans le Pèlerin par exemple, ou dans la Vie catholique, ou dans Témoignage chrétien, trouver un seul texte qui dise, écrit par eux, qui dise l'homosexualité est un péché qui crie vengeance contre le ciel. C'est l'enseignement du catéchisme. Ils n'existent pas, ces textes. Par contre, vous allez trouver des textes. Des histoires magnifiques de deux hommes qui s'aiment d'un amour tendre, avec des belles photos de deux hommes main dans la main, et que le bon Dieu aime tels qu'ils sont, et qu'ils sont très heureux, et tout va bien, et on espère que petit à petit l'Église va accepter et tolérer ces gens-là. Mais bien sûr, je vous ai donné ces articles, maman. Pas bien que c'est pas ça. C'est comme ça. Regardez pour l'histoire de l'Ukraine. Il n'y a pas longtemps, j'ai ouvert un pèlerin. Il y a tout un article sur l'Ukraine, sur les gens de ce village, les catholiques de ce village, se regroupent ensemble pour savoir comment pouvoir aider les Ukrainiens contre l'agression russe. Vous croyez qu'il allait avoir le journal suivant un article sur comment les fidèles qui se regroupent entre eux pour essayer d'aider les Russes à lutter contre l'agression de l'OTAN? Jamais. Il faut croire aux gens que tout vient de l'ordre Poutine, parce qu'il est responsable de tout. Et je garde bien évidemment de préciser que dès 2014, le gouvernement ukrainien commençait à bombarder déjà les Ukrainiens du Donetsk et du sud-est de l'Ukraine, parce qu'ils étaient du Donbass exactement, parce qu'ils étaient orthodoxes, parce qu'ils parlaient russe et qu'ils étaient sous influence russe. Ça paraît bon. Mentez, il en restera toujours quelque chose. Et c'est ce qui se passe dans l'église moderne, vous voyez. Alors, il faut avouer ce qui est. C'est lorsqu'on explique ces choses-là aux nos fidèles, et les gens nous disent, monsieur l'abbé, c'est pas possible que des choses pareilles soient passées. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu des réactions? Regardez l'exemple, encore une fois, de cette cérémonie blasphématoire, il n'y a pas d'autre mot à utiliser, cette cérémonie blasphématoire des Jeux Olympiques. Est-ce que tous les évêques sont montés au créneau?
Personne.
Pratiquement pas. Une toute petite déclaration. Non, c'était magnifique. Techniquement, c'était très beau. Oui, il y a eu quand même des petites choses qui ne nous ont pas beaucoup plu, mais c'était magnifique. Vous voyez? Comment on cache la vérité? Si les évêques avaient eu quelque chose dans le ventre, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Nous demandons à tous les catholiques Moi, c'est ce que je leur demanderais. Bon, on n'a pas de problème avec nos fidèles, parce que je pense qu'ils ont compris ça depuis longtemps. Nous demandons à tous les catholiques de ne pas assister à aucune cérémonie, aucune organisation liée avec les Jeux Olympiques. Ne regardez pas la télévision, n'écoutez pas les reportages sur les différentes compétitions sportives des Jeux Olympiques. Évitez de... Il y a un mot, j'ai le mot au bout de la langue, je n'arrive plus à retrouver. Il faut ne pas suivre tous ces choses-là. Il faut éviter tout ce qui est à voir.
Hein?
Boycotter, voilà, cherchez-moi, merci. Boycotter tout ça. Et ça a été dit par les évêques.
Les sponsors.
Il faut boycotter tout ça. Parce que ça n'a rien à voir. Et c'est ce qu'ont dit certains qui ont un peu de bon sens, qui ont dit. J'ai eu un article qui a été publié aux États-Unis par une Française qui était intelligente, qui a dit. Il faut que nos amis américains comprennent que ça, c'est pas la France, c'est Macron et ses petits copains. Ça n'a rien à voir avec la France. Mais malheureusement,
ça
est passé partout.
Hein. C'est un agent américain.
Bien sûr. Voilà. Oui, donc, c'est là il faut faire extrêmement attention à ces choses-là pour ne pas nous faire avoir. Le problème, c'est qu'ils sont très, très intelligents. Très intelligents. Ces modernistes ont travaillé avec...
C'est diabolique tout ça.
Bien sûr que c'est diabolique. C'est le démon qui est derrière.
C'est le démon.
Mais malheureusement, ça a marché. Ça a marché et maintenant, c'est passé partout. Pratiquement, on peut dire qu'en France, l'immense majorité des prêtres sont devenus modernistes. Qui a conservé la foi? Combien il y a de prêtres par rapport au nombre de prêtres? Je ne sais pas combien il y a de prêtres en France. 45 000, quelque chose comme ça. Il y a combien de prêtres qui ont gardé la tradition? Un tout petit groupe. Donc, je vais arrêter là parce que ça fait déjà plus d'une heure et demie que je vous parle. Hein? Donc, encore une fois, je conseille beaucoup à ceux qui m'écoutent qui ont encore la patience de m'écouter sur Internet, de relire les parties que je viens d'expliquer. Relisez ça après pour comprendre un peu mieux le texte. Une fois que le texte a été expliqué, décortiqué, tel que j'ai expliqué, je décortique. J'espère que vous pourrez comprendre un peu mieux. On finit par une prière. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi.